la 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 la.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Kiora, good evening, bonsoir. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio francophone et de la francophonie. Et ce soir, nous avons plein de choses à vous raconter. Deux invités qui sont venus. Isabelle qui va nous parler des massages sur les enfants, du yoga et un projet fou.
Bonsoir.
Bonsoir. Sabine qui habite en Nouvelle-Zélande depuis 36 ans, professeure de français à New Plymouth. Et je pense que tu as aussi beaucoup de choses à nous raconter. Et puis tu es allée voir une expo intéressante au Titi Rangi Festival. Donc ce sera intéressant d'avoir ton opinion dessus.
Et,
bonsoir. Et Virginie. Bonsoir Virginie.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va bien. Tu vas nous parler de la série Marseille avec Gérard Depardieu.
Eh oui, en fait j'ai passé la semaine dernière à Sydney et comme j'étais pas chez moi, je me suis dit tiens, je vais me faire une... Comment on appelle ça? Du série binging.
Binging,
oui. Binging, voilà. Donc je me suis dit tiens, je vais regarder ça. Mon mari n'est pas là, donc j'ai pas besoin de faire attention, traduire, principalement traduire. Et donc j'ai regardé la série Marseille, voilà. Donc je vais en parler un petit peu.
Ouais, ils en parlent beaucoup en France, effectivement. Et aux manettes, Stéphane.
Oui, Stéphane qui est de retour.
Qui est de retour en forme.
Voilà, et à l'animation, on a elle.
Oui, c'est moi, oui. Oui. Bonsoir. Est-ce qu'on commence l'émission par une petite musique?
Oui, on commence par une petite musique.
Et qu'est-ce que ça va être?
Eh bien, là-bas, on avait choisi Yassidi de Orange Blossom.
Et oui, bah, c'est une bonne introduction, comme c'est justement la bande-annonce de la série Marseille.
Ah. C'est parti.
مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير
يا سيدي يا سيدي يا سيدي
on est complètement transporté par la musique. On se dit que on a envie de connaître plus de choses sur cette série de Marseille.
Oui, alors je vais juste dire la chanson. Donc ça s'appelle Yacidi et c'est de Orange Blossom. Et c'est extrait de l'album Under the Shade of Violet.
Voilà. C'est très francophone tout ça.
C'est vrai.
C'était en quelle langue les paroles?
J'assume que c'est de la langue arabique. Voilà. Donc, tu mets toujours la musique là?
Non, je la baisse.
Il la baisse doucement. Donc, Marseille, donc, je voulais vous en parler. Je disais, ça a été mon coup de cœur des deux dernières semaines, on va dire. Donc, c'est une série télévisée française. Juste pour vous donner un petit peu de fiches techniques. Donc, le scénariste, c'est Dan Frank, que vous connaissez peut-être. Il a fait La Séparation. Vous connaissez ce bouquin? Ça a été sorti en 91, quand même, La Séparation.
Il y a,
eu un film qui a été sorti
un
après.
Film iranien
sur ce... Pardon?
Iranien?
Non, il me semble pas, non, non. Donc, La Séparation, les réalisateurs, donc il y a deux co-réalisateurs, Pascal Breton et Florent-Emilio Siri. Alors, Florent-Emilio Siri, c'est celui qui a fait Clo-Clan en 2012.
Bah, tu parles de la série ou tu parles du film de 91?
Non, je vous donne qui c'est, les co-réalisateurs, pour vous donner un petit peu de contexte.
Je crois qu'on va faire un
Et Pascal Breton, il a fait Sous le soleil, vous vous souvenez de Sous le soleil?
Ah oui, oui, ça s'appelle Saint-Tropez à l'étranger.
Ah bon?
C'est quoi le Sous le soleil?
Alors c'était une série française quand j'étais adolescente, ça se passait à Tôt. Voilà, il y avait... En fait, c'était la série qui suivait Hélène et les garçons, plus ou moins.
Il y avait Adeline, l'ex-femme de Hallyday, qui jouait dedans.
C'est vrai, Adeline Blondiot, elle jouait dedans. Et aussi Pascal Breton, il a fait Versailles, qui est une grosse série en ce moment. Hein. Ah c'est la saison 2, là, ils doivent être en train de faire la troisième saison en ce moment.
Donc ça se passe à Versailles, c'est ça?
Non. Donc, confuse. Donc Marseille, donc, je disais, c'est une série télévisée française. Ça a été financée et commandée par... Roulement de tambour. Netflix.
C'est l'autre.
Ben oui, pas Amazon, voilà. C'était l'une ou l'autre. Hein. Donc, ça a été financé et commandé par Netflix, produite par Netflix, et Fédération Entertainment. Donc, la première saison, elle a été produite en 2015 et sortie sur Netflix le 5 mai 2016. Donc, c'est pas tout jeune, finalement. Et la deuxième saison, par contre, elle a été diffusée sur Netflix depuis le 23 février 2018.
Quel suspense.
Voilà.
Donc, c'est tout neuf.
Donc les acteurs...
Bah, la deuxième saison, oui. Alors, 16 épisodes. Les deux premiers épisodes, j'aime beaucoup. Hein, il y a une espèce de promotion qui a été faite. Donc ça a été diffusé sur TF1, les deux premiers épisodes. Et puis après, les autres épisodes, vous les voyez sur Netflix. Mais bon, ils ont essayé d'attirer un peu une audience française sur TF1. Et puis ça a été, l'avant-première, ça a été diffusé à Marseille aussi. Donc c'est quoi? C'est un drame thriller. J'aime bien le mot thriller, parce que je trouve que les Français, on n'est pas très doués à faire des thrillers, généralement.
Je ne me trompe pas, parce que j'ai Gérard Depardieu en tête.
C'est ça. Alors, les acteurs principaux, Gérard Depardieu, qui fait Robert Faro, Benoît Magimel, Lucas Barrès, Géraldine Paglia, je ne la connais pas tellement, Rachel Tarrou, qui est la femme de Robert Tarrou, Stéphane Caillard, Juliette Tarrou, la fille de Robert Tarrou, et Nadia Farès. Vous vous souvenez de Nadia Farès?
Ça me dit quelque chose.
Elle a fait, Les Démons de Jésus, vous ne souvenez pas, avec Elise Moon, elle a fait quelques films, elle est magnifique.
Je ne me souviens pas, c'est que j'ai absolument aucune idée de quoi
mais
tu
en fait, il nous a dit, de toute façon, tu ne regardes pas la télé, tu nous as dit.
Donc
en fait,
qu'est-ce que tu veux?
Tu connais quand même Gérard Depardieu.
En Belgique, on a TF1. Hein, en Belgique, on a TF1.
Ah, c'est vrai?
Mais il ne regarde pas la télé.
Gérard Depardieu, ouais, il était à Bruxelles il y a un mois, là, avec. Il tournait un film avec. Avec un autre acteur connu, Claude quelque chose.
Mais c'est un sacré budget pour faire venir Gérard Depardieu pour une série.
Ah, j'imagine, bah même Benoît Magimel, vous connaissez Benoît Magimel quand même. Pas toi, on ne demande pas ce que tu regardes à la télé. Il a été connu, c'était avec le premier film qu'il a fait, c'était comment ça s'appelait? Ah, c'était l'histoire d'un enfant, donc il y avait deux familles. Et puis il y avait un échange de bébés, et puis il se retrouvait dans une famille.
La vie est un long fleuve tranquille.
C'est ça, la vie est un long fleuve tranquille. Voilà.
Et
c'est comme ça. Voilà.
Oui.
Et donc, la famille Groseille, j'ai entendu parler.
Il grandit dans la famille Groseille, alors qu'il devrait être dans l'autre famille. Voilà.
Je dis, c'est Ravioli.
C'est ça. Exactement. Voilà. Donc c'est comme ça.
Jésus revient.
Ouais. Jésus revient parmi les siens.
Voilà. C'est ça. Voilà. Bah, Benoît Magimel, vous le connaissez tous. Donc voilà, l'histoire. Donc ça se passe à Marseille, comme le titre l'indique. Robert Faro, c'est le maire de Marseille depuis 20 ans. Et il est prêt à passer les rênes à son protégé et premier adjoint qui est Lucas Barrès, donc Benoît Magimel. Et ce dernier le trahit, et là commence une lutte sans pitié entre les deux hommes pour contrôler la ville de Marseille.
Donc c'est plutôt politique.
Voilà, tout à fait. Donc derrière,
il y a de l'action, du crime, du sang.
C'est ça. Il y a un secret de la famille. D'avant, pardon.
Ils sont inspirés de la politique. D'avant.
Exactement. Il y a beaucoup d'influence. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils donnent des noms différents aux partis politiques. Alors ils l'appellent l'UPS, je crois, un truc comme ça, au lieu de l'UMP, et puis le parti de gauche au lieu de l'appeler le parti socialiste. Donc ça, c'est intéressant. Donc le sujet principal, c'est la politique et les stratégies utilisées pour gagner les votes. Ce qui est assez intéressant, il y a tout un espace d'esprit avec la mafia. Donc bien sûr, il y a de l'amour, réciproque.
Des trahisons, des divorces.
Voilà,
alors Gérard Depardieu, c'est qui?
C'est le maire de Marseille.
Ah, c'est le maire de Marseille.
Voilà, donc c'est plus ou moins le... c'est le personnage principal, oui et non, parce que Benoît Magimel, il joue quand même un rôle assez important.
C'est le maire sortant, donc. Enfin, c'est lui qui veut passer la main.
Voilà, c'est le maire sortant, et Benoît Magimel se fait élire donc, à l'issue de la première saison. On comprend un peu mieux la situation, voilà. Donc journaliste, famille...
Alors Benoît Depardieu, il n'est plus là la deuxième saison, là.
Ah, si, il est toujours là.
Si sans protéger, c'est fait élire.
On peut pas l'éviter. Parce que juste, voilà, revanche. Voilà, c'est le sujet.
Pouvoir, on lâche pas.
Ouais.
Et bien sûr, la ville de Marseille, qui est, j'aurais tendance à dire l'actrice principale quasiment, mais.
Oui, elle est omniprésente,
ouais. Donc, ce qui est intéressant sur cette série, c'est que les critiques ont été très négatives.
Ah bon?
Extrêmement négative. Ah oui,
c'est
alors.
Les Français, c'est ils aiment critiquer.
Alors voilà, ça, je suis assez d'accord. Je pense aussi, il y a un peu
surtout
de ça.
Surtout quand c'est fait chez eux.
Et surtout Netflix, je pense, il y a peut-être un peu ce côté. Oui, alors Télérama disait que c'était un ratage tellement énorme qu'il en deviendrait presque fascinant. Voilà, le Figaro parle de ratage, de vulgaire mélo, comparant la série à un Dallas phocéen érotico-démodé. Alors effectivement, il y a quelques scènes un peu chaudes. Enfin bon, ça va, c'est pas pour une série française.
Hein, du show, hein.
Oui, puis pour une série française, finalement, ça va, quoi. C'est pas non plus.
Toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais tendance à dire que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Hein, faut pas se leurrer.
C'est une série télé, quoi.
Voilà. Et en fait, c'est un peu ce côté que j'ai trouvé. C'était si. Alors, moi, j'ai quitté la France depuis plus de 15 ans maintenant, mais il y avait tous les étés, il y avait cette série de l'été. Vous vous souvenez? Il y avait une série, il y avait à peu près 5 ou... Bah non, tu regardes pas la télé, on t'a dit déjà. Donc 5 ou 6 épisodes, à peu près, hein, je crois que c'était ça, tous les samedis soirs, pendant tout l'été, il y avait une série un
Château
peu...
Château-Vallon.
Genre de choses, voilà.
Château-Vallon.
C'était du genre, voilà. Ouais. Et donc, je pense, ça me donnait un peu cette espèce d'esprit de série de l'été. Donc en fait, je trouve que...
Un petit peu de nostalgie.
Oui, et puis en fait, je pense que si on s'attend à ce que Netflix fasse une série à couper le souffle, effectivement, on est un peu déçu. Je sais pas exactement le budget, donc je sais
mais
pas si
c'est pas Netflix qui l'a fait. C'est Netflix la commande à les
ils ont
producteurs
payé,
français.
Mais alors voilà, c'est ça que je me suis dit. Est-ce que c'est pas au niveau des aspirations des gens se dire on attendait mieux. Moi, j'attendais rien, donc comme ça, j'étais assez assez relax. Alors moi, j'ai trouvé ça assez léger. Je trouvais que par moments, au contraire, c'était assez lourd. Et puis
ils traitent de problèmes de société ou pas? Parce que Marseille, il y a beaucoup de choses quand même.
Oui et non. C'est-à-dire que oui, mais dans un ils traitent par exemple, ils appellent ça le Parti français, qui bon, un autre nom pour le Parti Front National, et puis ils amènent un peu la question de l'effet du Front National si ça, quand ça arrive au pouvoir et leur vue sur les choses, on va dire. Mais il y a des moments, c'est assez lourd parce que c'est la relation entre Gérard Depardieu et Benoît Magimel que moi j'ai trouvé très juste. Et je trouvais que justement, Benoît Magimel, il avait ce côté un peu sombre et. Et je le trouvais très, très...
Authentique.
Voilà, je le trouvais assez authentique. Et moi, en tout cas, j'y croyais, quoi. Ouais. Voilà, je me sentais assez bien à l'aise à le regarder jouer ce rôle de revanchard et qui rentre dans le milieu de la politique. Je trouvais que c'était assez juste.
Donc du coup, maintenant, tu es accro, tu connais ta suite
Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, c'est série 2. Je pense qu'il y a la série 3. Moi, j'attends avec impatience la série 3. En tout cas, la fin de la série 2 me laisse penser qu'il y aura une troisième série. Alors aussi, j'avais lu qu'on parlait de House of Cards français. Et je me disais, je ne sais pas pourquoi, on a toujours besoin de comparer à quelque chose. Et je me dis finalement, c'était pas plus simple de laisser la série est ce qu'elle est, quoi, en fait. Il n'y a pas besoin de comparer, c'est juste une série française. C'est, voilà, il y a du Gérard Depardieu, il y a du Benoît Magimel, tous les acteurs sont pas bons, mais globalement, ça se passe assez bien. Et je la recommande, voilà. J'aurais tendance à dire, vous imaginez rien, allez la regarder avec un esprit assez ouvert, et vous, je pense que vous l'aimerez autant que moi, je l'ai apprécié, en tout cas. Voilà.
En tout cas, ouais, tu donnes envie d'aller voir.
Donc si vous n'avez pas Netflix, bah dommage. Mais en tout cas, si vous avez Netflix, allez la voir. Voilà. Les deux séries, comme ça, vous n'aurez même pas besoin d'attendre. Les deux séries sont déjà sur Netflix. Ouais, ouais. Voilà.
Et donc la deuxième saison est déjà finie ? Oui. Tu disais qu'elle vient d'être commencée en février.
Ben non, en février, mais donc elle a été mise sur Netflix en février.
Ah, tout d'un coup, quoi.
Moi, j'ai regardé 16 épisodes en 2 semaines.
En 24 heures.
Oui, mais j'étais à Sydney la semaine dernière, donc j'ai eu plein de temps. Ouais, puis c'est pas des
rien
épisodes
à faire à Sydney.
C'est 40 minutes.
Pas dans une chambre d'hôtel. Donc 42 minutes.
Tu pourrais sortir de ta chambre ?
Peut-être pas.
C'est plein d'Australiens
ouais,
dehors.
Ouais, c'est ça, c'est dangereux. Oui, mais sinon, je pourrais parler de rien.
Tu l'as regardé pour en parler à la radio.
C'est ça, voilà, exactement. C'était mon cas d'école. Et 42 minutes par épisode, donc ça va, hein, c'est assez facile à regarder.
Ouais. Et on s'était dit qu'on enchaînait avec une musique en lien avec Marseille.
Ah non, oui, non, on a dit qu'on allait mettre un lien. C'était un des co-réalisateurs qui a, entre autres, fait les clips vidéo de
Daniel Balavoine. Pas de Daniel Balavoine, non, on se trompe.
De I am.
Ah, donc on met la chanson de I am maintenant.
Voilà.
Ok, et donc la chanson de I am, c'est elle donne son corps et là, elle s'est coupée après. Elle donne son corps
avant son nom.
À la médecine. Donne son corps avant son nom.
Elle
voilà.
Donne son corps à la médecine. Voilà.
C'est parti.
On était assis à la terrasse d'un café. Un verre de Perrier sur la table, en train de déguster une glace.
9h du soir.
La place était presque.
C'est pas assez pour ne pas voir arriver le phénomène.
Méditerranée ennemie, c'est comme chez nous.
Pas sécu, à fond, ouh, elle envoyait la gante. Elle est venue s'asseoir à côté de nous.
Une clope d'usine,
là t'as ton mec.
Nous on n'est pas jaloux de mettre 110 kilos.
Il s'est pointé, aussi sec.
On l'est retourné à nos perriers.
Je suis pas fou, le type était balèze. Pas question de s'embrouiller, de se faire plier par Golgot 13.
Mais la gadie reluquait.
Ouais, regarde à guichet.
Elle essayait quand même de me faire du pied.
Une vodka,
la commande est passée.
Son mec va au comptoir, elle nous fait glisser un billet.
Rendez-vous à 10h à votre appart.
Dites-moi où c'est.
Une copine va m'accompagner.
Elle se leva la main crispée sur le papier.
Un peine et discret.
La soirée était bien commencée, ouais. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donnait son corps avant son nom. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom.
Je préparais la pièce et les armures de latex. Les sticks de pommeau, le sang de tir sur le buzz.
Et moi à peine arrivé en bas.
Quoi?
Elles étaient déjà là.
Ouais, la pure motivation, mon gars.
Dans l'ascenseur, il ne faisait pas chaud. Mais une autre chaleur, leur fit déjà sauter les tricots.
Elles arrivèrent dans la maison en Wonder Bra.
Vision irréelle.
Fracture nette de l'œil droit.
On leur proposa de boire ou de manger un truc.
Un cappuccino de sucre roux.
Oh, elles aimaient le
leur luxe. Excusez-moi, prenez le bien, certes.
Vous êtes raffiné.
Mais vous avez l'air de deux filles ouvertes.
10 secondes après, c'était la cavalcade.
Et comme Jackie Chan,
on a fait nous-mêmes nos cascades.
Au matin, ce ne sont que des draps que j'ai sentis.
Les cascadeuses étaient parties.
En m'habillant, je palpais mes poches.
Vide, plus de chèques, plus de cartes, plus de liquide.
Le plan était simple et sans accro.
Si on rattrape les gazières,
on les éclate à coups de marteau.
On a foncé au centre-ville.
On a aperçu des filles pénétrer dans un bar américain.
Devant la porte, il y avait le jeep du bar, la baraque.
On a compris, mais trop tard, que ce mec était leur marque.
J'ai dû trouver un exutoire
pour passer mes nerfs.
Ouais, et est-ce qu'il a morphé
des coups de plaque et des guerres. Traitez les filles avec respect, mais attention. Prenez garde à celles qui ne donnent pas leur nom.
Dans toutes
toutes les situations sans innovation. Elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations sans inhibition. Elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations sans inhibition. Elle donne son corps avant son nom dans toutes les situations sans inhibition. Elle donne son corps avant son nom.
En train de secouer la tête.
Non mais il a enlevé la musique. Danse. En fait, il n'y a que lui qui entend la musique.
Tout le monde entend la musique.
Non, non, on n'entend pas la musique, nous.
Danse.
Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, que j'ai rencontrée de manière assez rigolote, parce que sur Facebook, il y a une page qui s'appelle « Maman à Auckland ». Et ça existe depuis quelques mois et c'est super pratique, parce que toutes les mamans françaises, finalement, peuvent repérer des mamans qui sont pas trop loin de chez elles, et puis il y a vraiment un échange qui se fait. Et parmi les échanges qui passaient, j'ai vu celui d'Isabelle qui parlait de massage bébé et de yoga, et ça m'a beaucoup intriguée, parce que en regardant un peu son parcours, c'était un parcours assez riche et varié. Donc j'ai eu l'envie de l'inviter et elle est venue. Et donc bonjour.
C'est la première la première fois que je vous rencontre alors.
Oui, oui, tout à fait.
Ok.
Tout à fait. Donc tu as commencé ta carrière comme
sage-femme.
Donc tu étais en France. Ouais.
J'étais toujours intéressée par cette formation de massage bébé. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, tu pensais que je massais les bébés.
Oui.
C'est pas du tout ça, en fait. En fait, j'apprends aux parents à masser leur bébé. Moi, je ne touche pas les enfants. Parce qu'à partir du moment où on touche un enfant, on crée du lien avec lui. Et moi, je suis pas là pour créer du lien avec les enfants des autres.
C'est vrai que je confondais, parce que moi, le massage bébé que j'ai infligé à mes enfants, c'était pour
infliger.
Faire... c'était finalement pas un massage de tendresse, mais un massage pour faire sortir les glaires, parce qu'ils étaient complètement... mes gamins, quand ils le voyaient, ils savaient qu'ils allaient passer un mauvais moment, mais...
C'était efficace.
Et on m'avait expliqué qu'il y avait qu'en France que ça existait. Et du coup, en voyant massage bébé, je dis, tiens, il y a...
Et donc, en fait, ouais, c'est une confusion que sûrement les gens doivent encore faire. Souvent, les gens me disent « Ah, mais donc, vous massez les bébés ?» Je fais « Non, je ne masse pas les bébés, je vais vous apprendre à le faire pour créer du lien avec votre petit, pour créer la confiance qu'il va mettre en vous. Certes, on masse, en massant le corps, on masse tous les organes, on masse le cerveau, on masse... on l'aide à se développer, mais on crée un lien indestructible. La première fois où un enfant va plonger ses yeux dans les vôtres, vous restez, je ne sais pas, interdit.
Parce que tu disais justement, donc c'est un lien donc la maman vers l'enfant, l'enfant vers la maman, mais ça a aidé aussi les mamans qui avaient des dépressions post-nastiques.
Exactement, oui. C'est ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai fait ma petite thèse en fin d'études. Je l'ai faite sur la dépression postnatale. Et il y a eu des études faites qui ont prouvé que de masser son enfant pouvait réduire effectivement cette dépression postnatale. Parce que quand on est en dépression postnatale, on n'arrive plus à s'occuper de son bébé, on n'arrive plus à le regarder.
Et c'est un blocage total.
Ouais. C'est pas le petit baby blues d'après la naissance. La dépression, c'est souvent après et c'est très sévère. Il est vraiment difficile de s'en sortir tout seul. Donc, créer du lien. Qu'est-ce qui cause ? Il y a peut-être des signes avant-coureurs avant, mais une histoire hormonale.
Et tout le monde peut.
Oui, c'est ça que j'avais entendu dire. Oui, c'était plus le changement soudain d'hormones qui faisait que ça pouvait déclencher des dépressions.
Mais et puis tu t'enfonces doucement.
Et, mais effectivement, il y avait une connexion. C'est-à-dire si vous êtes à la base plus prône à des dépressions, forcément, ça va vous impacter plus facilement. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une condition.
Et ça affecte toutes les classes sociales.
Voilà.
Ouais, on n'est pas à l'abri. Non. Personne n'est à l'abri. Ouais.
Absolument. Et donc, la plupart du temps, moi, je vais réunir des mamans chez l'une d'elles qui est contente d'accueillir les autres. Du coup, je crée un groupe. Du coup, celle qui se sent pas à l'aise, qui a des questions, qui est pleine de doutes, elle va s'apercevoir que les autres ont les mêmes questions et les mêmes doutes. Celle qui se croit pas, qui pense qu'elle est pas une bonne mère, ben, elle va s'apercevoir que c'est la même chose à côté. Et puis, en fait, c'est un massage du corps qui est divisé en 5 sessions. On se voit une fois par semaine. Et pourquoi on se voit une fois par semaine? Parce qu'on y va très progressivement. On commence par les jambes. Et puis après, on continue. On ne va pas comme ça sauter sur un bébé et puis masser de la tête aux pieds. Voilà. Et c'est aussi une école de respect. Avant de masser un bébé, on met de l'huile sur nos mains, on frotte nos mains, on montre nos mains au bébé. Donc, il entend le bruit, il sent l'odeur de l'huile, il voit les mains et on demande la permission. Alors, c'est sûr que la première fois qu'il va être massé, il ne va pas vous dire oui ou non, surtout que les massages se font... Enfin, on peut faire ça de 0 à 1 an, donc comme il n'a pas la parole, mais il a des petits signes. Quand il vous donne des petits coups de pied, c'est qu'il a peut-être envie qu'on arrête de le masser. Donc,
on apprend à déchiffrer tout ça.
Exactement.
Ouais. Et il y a des bébés qui vraiment refusent ou,
Alors, rare. Pour la petite histoire, tu me demandais pourquoi j'avais fait ça.
Ouais.
Pardon. En fait, mon deuxième enfant, je me suis dit, je vais le masser.
Fais un mouvement de rouleau à pâtisserie quand tu dis
je vais le masser. J'ai acheté un super bouquin magnifique, un bouquin qui s'appelle Chantala, un bouquin qui vient d'Inde avec des photos magnifiques. Et je me suis dit, allez, je vais te masser. Et en fait, il pleurait tout le temps. Et moi, comme je voulais être une bonne mère, et ben, je continuais quand même. Il pleurait, mais non, mais tu vois, ça te fait du bien. Et puis à un moment, ben, je me suis dit, non, mais je suis vraiment pas bonne, quoi. Donc j'ai arrêté.
Ouais.
Et puis j'ai fait cette formation et j'ai appris cette histoire de respect.
Donc, cette formation, tu l'as fait où? Tu l'as
fait? Je l'ai faite. En fait, il y a une instructrice qui habite à Christchurch et qui se déplace peut-être deux fois, qui fait deux formations dans l'île du Nord et deux formations dans l'île du Sud.
Et qu'est-ce que tu faisais de mal, hein? Qu'est-ce que tu...
Ben, j'arrêtais pas quand il pleurait.
Ah,
c'est ça, surtout. Oui, voilà, je disais, ouais, il voulait pas. J'aurais dû recommencer le lendemain et puis faire ce petit rituel. Et ce qui est drôle, c'est que le premier jour, après mon premier jour de formation, je rentre à la maison. Et ce gaillard-là, maintenant, aujourd'hui, il a 23 ans. À cette époque, il avait 20 ans. Et je lui dis, tu sais quoi? Eh ben, j'ai essayé de te masser quand t'étais petit. Et là, il me dit, ah, mais c'est pour ça que j'adore les massages. Je lui fais, mais arrête, je t'ai massé deux fois. Ben, j'en sais rien, moi j'adore les massages. Et je lui dis, tu voudrais que je te fasse un massage là? Et il s'est allongé avec ses presque 2 mètres.
Il y avait plus d'huile hein, là.
Il y avait plus d'huile et j'ai...
Plus d'huile de bras aussi.
Ouais, j'ai mis sa grande jambe sur mon épaule, j'ai massé. Et vous savez quoi? Il s'est mis à me parler de toute sa vie, de tout. Donc les massages, ça ouvre le dialogue. Donc, on apprend à masser son bébé de 0 à 1 an, parce qu'après 1 an, il faut leur courir après pour pouvoir les masser. Si vous n'avez pas commencé avant, bon, on peut quand même, hein, mais moi, mon boulot, c'est de 0 à 1 an. Et puis après, on va adapter les massages. Quand l'enfant bah, commence à dire non, on lui dit, bah tiens, mais je te masse juste une petite épaule, là, comme ça, tu vas voir, ça te fait, c'est bien, hein, c'est bien. Après, il rentre à l'école. Ça peut être le massage câlin. Après, ça va être le massage conte de fées ou football. Ou puis après, tu prends exemple sur les... Tu dis que les All Blacks, ils se font masser, donc tu masses. Et puis après, ils deviennent teenagers et puis ils sont un petit peu renfermés. Tu passes derrière, tu masses les épaules. Enfin, tu adaptes. Et un jour, bah, ils vont te masser.
Donc, mesdames, si vous voulez un jour que...
C'est la quête qui a un bras.
Non, mais c'est vrai que ça donne envie. Moi, je connaissais pas ça, donc je n'ai pas fait à mes enfants. Et c'est vrai que peut-être quelque chose qui m'aurait intéressé.
Non, moi, je suis sage-femme, mais le jour où j'ai vu un enfant plonger ses yeux dans les yeux de son parent et puis pas bouger comme ça, là, je me suis dit, mais waouh.
Ça, c'est... Oui, le parent devait être complètement hypnotisé.
Voilà.
Donc, et donc, tu étais sage-femme et est-ce que tu as pratiqué ici ou pas du
non.
tout ?
Non. Comme je le disais, il faut déjà passer un IELTS à 7.5 pour être dans une carrière médicale.
Mm-hmm.
Donc, puis c'est très difficile de faire reconnaître des diplômes médicaux. Je pense que c'est la même chose en France. Hein, quand,
l'inverse existe.
L'inverse existe, hein, ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Et puis, on est venu ici pour changer de vie.
Mm-hmm.
Donc, j'ai commencé par faire plein d'autres choses, mais enfin, je reviens doucement.
Ouais.
Massage bébé, et puis maintenant je suis prof de yoga. Enfin, voilà.
Oui, donc le yoga, il est arrivé après le massage.
Le yoga est arrivé après le massage, parce que toujours intéressée par cette histoire de prendre, pas en charge, j'aime pas ce mot, aider les femmes en dépression, et je me suis dit, si j'alliais le yoga, l'exercice physique. Donc il n'y a pas très longtemps que j'ai fini, c'était en décembre. Donc tout ça est dans ma tête et je vais un petit peu mettre tout ça ensemble. Si je fais quelquefois des cours pour les mamans en post-natal avec leur bébé, donc il y a un petit peu des deux, on s'occupe de la maman,
à développer,
on s'occupe.
Effectivement.
Ouais.
Alors pour moi, yoga c'est un mot assez vague, hein, parce que je sais qu'il existe toutes sortes de yoga. Enfin, donc je reste un petit peu, j'ai du mal à comprendre ce que c'est exactement.
Merci.
Je vois quelqu'un qui est assis des jambes en lotus et qui médite.
Ouais, non, mais ça, c'est de la méditation. Mais on va dire, sur le principe de base, le yoga, ça reste quand même des étirements. C'est quand même le corps, c'est le corps.
Alors, ouais, le yoga, c'est l'union entre le corps, l'esprit.
Et l'esprit, voilà. Mais le principe de base, c'est les étirements. Mais c'est pas que ça. Parce que justement, en fait, c'est. Moi, j'en ai fait beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans le yoga, c'est justement cette connexion que tu peux avoir. Entre ton corps et ton esprit
la
au moment
conscience, ça le moment présent.
Oui, mais surtout en fait,
et
tu
avec
te sens
ta respiration.
Oui, et puis tu te sens tellement à la limite, j'ai tendance à dire les moments de ma vie où je me suis vraiment sentie vraiment à l'intérieur de moi-même, et je sais que ça sonne un peu bizarre, mais
non, c'est ça. Hein.
C'est vraiment quand j'ai fait des cours de yoga, oui. Ça a vraiment été.
En fait, les postures.
Il
y a ce qu'on appelle les 8 membres du yoga. C'est des. Comment dire ? Bref. Il y a des règles envers toi-même, des règles envers les autres. Après, il y a les postures. Mmh. Ensuite, au-dessus, tu as la respiration. Et puis après, tu commences à te retirer de tout ce qui peut affecter tes sens. Donc, tu rentres à l'intérieur.
C'est de la méditation aussi.
Et peu à peu, tu montes. Ensuite, tu focuses sur quelque chose de précis. Et puis après, tu es en méditation.
Mm.
Puis après, c'est le nirvana.
Ça a l'air comme
donc
un travail de longue haleine pour arriver jusque-là.
Les postures, c'est juste un petit bout.
Ouais.
Tu travailles avec ton corps, tu es dedans, tu respires, tu es bien. Et puis, ça t'amène à partir. Bon, après la méditation, c'est très difficile. Et parce qu'on pense qu'il faut avoir ne penser à rien. Et on est juste un peu humain. Donc pour moi, la méditation, parce que moi, j'ai 5 pensées à la seconde.
Ouais. Quand on est maman,
et même quand je fais du yoga, et je fais un autre style de yoga qui s'appelle le Kundalini Yoga, qui est encore plus spirituel, et ben, je suis capable de chanter un mantra en sanskrit dont je ne connais pas les paroles, donc il faut que j'imite les paroles, tout en ayant les yeux fermés et en étant dans une posture, et au-dessus de ça, je pense. Alors que normalement, les mantras sont là pour t'aider à
faire le vide.
Eh ben non, moi je pense au-dessus. Donc c'est pas grave, on n'est pas là pour se juger, on pense. En fait, pour moi, la méditation, c'est m'apercevoir que je pense et revenir à ma respiration.
Donc reprendre un contrôle.
Tu reviens.
Mais c'est très, en fait, c'est très. J'aurais tendance à dire, c'est un peu comme beaucoup de choses généralement dans la vie. On a tendance à compliquer énormément de choses, alors que finalement, le yoga, ça te donne plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça te force finalement de te remettre et te reconnecter avec les bases de ton corps et ton, la façon dont tu fonctionnes intellectuellement.
Mindfulness. C'est aussi un peu la même idée, c'est d'être concentré sur le moment présent et de reprendre un peu le contrôle de ses pensées, peut-être.
C'est pas nécessairement tes pensées non plus, parce que justement, des fois, c'est pas nécessairement tes pensées, ça peut être juste tes sensations. Et c'est, en fait, c'est ça. Des fois, on a tendance à trop penser et pas écouter son corps assez.
Donc, se reconnecter avec son corps.
Awareness.
Et je trouve le yoga, justement, apporte un peu ça. C'est-à-dire que tu te reconnectes avec ton corps. Par exemple, à des moments où tu vas pas. Alors moi, par exemple, je faisais des positions. Il y avait des jours où tu sens ton corps et pas. C'est pas la bonne journée et t'y arrives pas.
Il y a des jours où tu peux pas faire un truc que t'as fait la veille.
Voilà.
Tu forces pas.
Et c'est d'écouter son corps. Et puis il y a des fois où tu te rends compte que finalement t'as une mauvaise journée mentalement et c'est le jour où ça va pas fonctionner. Puis si tu te dis tiens je vais essayer de me relaxer, c'est là que tu vas y arriver. Donc tu te reconnectes vraiment avec toi-même et justement ce que je trouve intéressant sur le yoga, c'est que alors non effectivement tu peux pas faire une séance de yoga arriver là parce que tu vas pas pouvoir faire ce voyage avec toi-même si tu fais une séance. Faut en faire tellement pour pouvoir voir les différences. C'est ça qui est intéressant.
Après, il y aura un prof qui te convient, puis pas l'autre. Enfin,
voilà.
Il y a plein de choses.
Puis il y a des bonnes journées, des mauvaises journées. Un jour, t'es malade. Des fois, tu l'es pas.
Un jour, t'es malade, tu dis, je vais pas y aller. Et là, t'as tort.
Voilà.
Ah oui?
Et ça se passe super bien.
Là,
tu dis, je devais y aller.
Tu vas ressortir avec une pêche.
Voilà. Et en fait, c'est ça que
je. Tu ressors avec une sérénité et une pêche que t'aimerais bien garder tout au long de ta journée.
Et c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner aux enfants.
Bien sûr.
Parce que c'est. Effectivement, c'est pour sa vie, pour se développer. Pourquoi attendre?
Alors moi, je sais pas si c'est vraiment le yoga, mais c'est plus. Pour moi, c'est plus expliquer aux enfants de savoir écouter leurs propres émotions plutôt que nécessairement. C'est pas écouter que leur tête, c'est écouter leur corps aussi. En fait, c'est plus ça que je vois, plus en termes de choses.
Mais ça
à
se fait déjà dans les écoles.
Parce qu'ils sont dans le présent beaucoup
c'est
plus
vrai,
que nous.
Bien sûr.
Ah
ouais.
Et moi, j'enseigne à des instits à l'école de Milford une fois par semaine après l'école. Donc, je me dis que c'est déjà bien. J'enseigne aux instits.
Oui.
Ça va passer.
Oui, ils essayent le mindfulness dans les écoles. Ouais.
Je connais une prof de Pilates, bon, c'est du Pilates, mais qui commence à enseigner aussi le Pilates aux enfants. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont intéressantes parce que c'est quelque chose, comme vous dites, qu'on n'apprend pas en une fois, mais après beaucoup.
Mais moi, je pense que ça peut juste changer le monde.
Je pense qu'il y a vraiment. Je pense
qu'on en a besoin.
Ouais. Tout ce qui est occidental, de manière générale, on intellectualise énormément de choses. Donc c'est vraiment, tout est sur, et on le voit sur, par exemple, moi je vois par exemple la France est très très élitiste, donc c'est énormément sur l'intellectuel. Donc on qualifie les gens, on va dire, on associe les gens qui sont, comment on appelle ça En gros, t'es quelqu'un de bien si t'as fait énormément d'études et que t'as énormément de connaissances intellectuelles, voilà. Donc c'est quelqu'un qu'on qualifie de bien, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui est connecté avec son environnement, connecté avec son propre corps, voilà. Et donc il y a un peu cette, pour moi, dans le milieu occidental,
très académique,
très académique.
Et pas d'expérience personnelle.
Ouais. C'est pour ça qu'on vit ici, non?
Oui, peut-être un peu. Et justement, je pense qu'il y a vraiment ce côté, si on se reconnecte, donc on met pas, on va dire 100% du 100% sur l'intellectuel, mais sur le mental, le physique, et que justement là on arrive à se balancer à tout niveau. Je pense que c'est là où finalement on devient heureux. Je pense que c'est vraiment essayer de balancer, et là on rentre dans ce truc
équilibré.
De yin et yang qui veut dire un peu ça aussi. Pardon,
équilibré.
Voilà.
Au
Moyen
Âge,
se balancer,
on faisait le compagnonnage il faisait le tour de France comme on fait le tour du monde aujourd'hui, justement pour vivre quelque chose, rencontrer les autres.
Et ben moi je vais faire ça.
Ah oui.
En Nouvelle-Zélande.
Oui, on a acheté un bus. On a acheté un bus il y a un mois. On va le convertir et puis on va, dans un an peut-être, on va monter dans notre bus et je vais amener le yoga partout et le massage bébé partout.
C'est un gros. Voilà.
Il faut passer sans permis bus pour ça?
Ben oui.
Okay.
Ça va être marrant, ça.
Ah oui, donc il faudrait. Donc tu vas me faire un blog, tu vas indiquer toutes les dates.
Oui, je vais dire j'arrive, tournée. J'arrive, elle arrive, la prof de yoga en bus, réservez votre place.
Non, enfin.
Ah mais moi ça me fait rêver, ouais.
Ouais, ouais.
D'aller dans des coins parce qu'il y a plein de gens
qui sont demandeurs.
Qui seraient demandeurs, mais qui vont me dire ah ouais, mais moi je veux pas aller dans un studio là super branché avec toutes les nanas en. En Lululemon, sans le citer.
C'est vrai, ça, c'est tellement ça.
Et qui font des pauses. Ça, j'arriverai jamais à faire ça. De toute façon, je suis pas souple. Il n'y a pas besoin d'être souple. Il suffit juste de savoir respirer. Donc ça, je pense, il suffit juste de savoir respirer pour faire du yoga. Mais alors, c'est sûr que si tu tombes dans un cours où, super haut niveau, bah, t'es dégoûté. D'abord, tu peux te faire très mal aussi. Donc moi, j'ai été formée ici à Birkenhead par une prof formidable qui s'appelle Jennifer Allen et son studio de yoga s'appelle Jaya Yoga. Une ancienne danseuse qui s'est fait bien mal toute sa carrière de danse et qui est dans un respect du corps. Et son slogan, c'est « Safe and Sustainable Yoga for Life ». Donc,
et puis c'est ça, et c'est, ça vient toujours dans ce truc aussi de d'écouter son corps, et c'est vraiment important parce qu'il y a des positions, par exemple en yoga, ben, t'y arriveras peut-être jamais. Mais c'est exactement le fait d'accepter que finalement, c'est pas grave.
Connaître
en fait
ses limites aussi.
Moi, j'avais une de mes copines qui m'a présenté le yoga et emmené dans un studio. Alors, c'était assez intéressant. Elle fait deux fois ma taille et en largeur, la moitié de ma taille, en hauteur quasiment. Et elle est beaucoup plus souple que moi. Et elle fait des trucs, je la regarde, je fais, mais je suis incapable de faire ça. Et elle me dit, non, mais parce que je suis petite.
Et voilà. C'est un peu hyper laxe.
Et voilà. Et il y a des trucs que moi je fais et elle ne peut pas faire. Et ça a toujours été comme ça. Et en fait, on se regarde et on en a parlé, mais des tas de fois. Et voilà. Et elle peut faire des choses que je peux. Et c'est le fait d'accepter les différences, je pense aussi. Et de se dire, voilà, moi je ne peux pas faire ça.
Effectivement, quand tu fais du yoga, t'es toi avec toi. Mm-hmm. Tu regardes pas à côté.
Pas de comparaison, de chasse à.
Alors, ça dépend des studios. Il y a vraiment des. Et c'est ça, c'est intéressant aussi. Les studios, il y en a qui sont vraiment très. Il faut les éviter absolument, mais en même temps, on ne sait pas jusqu'à.
Tu nous donneras une liste. Hein.
Non, mais c'est, en général, tu sais, il y a les locations. On va dire. Les studios de yoga un peu plus arrogants ont tendance à être plutôt dans les centres-villes, j'aurais tendance à dire. Parce que, voilà, c'est un côté un peu.
Chez yoga, gym.
Et voilà. Puis il y a un peu côté un peu snob, pardon, où il y a un peu une compétition. Mais je pense que c'est le lieu géographique qui crée cette compétition, je pense.
C'est possible.
Donc il faut trouver l'endroit.
Moi, ce matin, j'étais en train de donner un cours dans un studio à Takapuna. C'était une community class dont les fonds reviennent à Prison Trust, enfin de l'argent reversé à du yoga en prison. C'est mon rêve aussi, je voudrais faire du yoga en prison et dans les foyers de femmes
battues.
Et là, je donnais ce cours et j'étais à côté d'un jeune homme qui n'avait pas dû faire beaucoup de yoga et je lui montrais, je venais plus près de lui pour lui montrer le chien tête en bas, là, quand on est en V, Downward Facing Dog.
Tu ressembles à une montagne.
D'accord.
Et ce qu'on me dit tout le temps, c'est qu'il faut poser les talons, mais il ne faut pas poser les talons. Tu ne poses pas les talons, tu plies les genoux, tu montes ton bassin. Et là, j'étais là à côté de lui, puis je disais, puis peut-être un jour tu poseras les talons, ou alors peut-être jamais. Ah, mais ouais. Lève ton bassin au ciel, là, c'est tout ce qui importe. Puis plie tes genoux.
Donc, ouais, une meilleure compréhension aussi des.
Ouais.
Non, puis il faut accepter, il y a des profs de yoga qui sont bien, il y a des profs de yoga qui sont pas bien.
Oui, mais c'est comme dans tout, hein.
Ouais, voilà, ouais, et mais c'est ça aussi, hein. Il faut accepter voilà, son corps, le fait que. Si le cours ne te plaît pas, c'est peut-être rien à voir avec toi, ça peut être juste que tu ne connectes pas avec le professeur, il faut changer.
Puis c'est une réelle alchimie. Hein. En fait, quand on fait un cours, ça a une forme de montagne comme ça. On commence doucement, il faut que la musique soit bien, mais la musique n'est pas le héros d'un cours. On commence doucement, on arrive à des poses plus compliquées. Et en fait, le but du yoga, ça active tous tes chakras. ça nettoie tous tes chakras. Et le but du yoga est de t'amener en système, dans ton système nerveux parasympathique. Le parasympathique, c'est celui qui te guérit, qui te calme, qui te... Et en fait, on devrait être plus dans ce système-là et moins dans l'autre.
Beaucoup
et c'est
de prévention,
le contraire.
En fait, finalement.
Ah, mais
cette...
oui. C'est le contraire. Et un cours de yoga t'amène dans ton système parasympathique où tu commences à te calmer. Donc, on arrive en haut de la montagne, on redescend tout doucement. Et puis on finit par une pause qui s'appelle Shavasana, la pause de relaxation, qui est indispensable pour absorber tout ce que tu viens de faire. Et si tu tombes pas sur la bonne prof de yoga,
c'est loupé.
Moi, je suis des fois ressortie d'un cours de yoga épuisée.
Oui, ou agacée.
Avec mon énergie qui était je sais pas où.
Donc, il peut y avoir des
groupes. C'est vraiment une alchimie. Enfin, j'adore.
Moi, je suis rentrée dans un cours de yoga une fois. C'était une prof qui venait des États-Unis. C'était un échange. Elle devait venir une semaine. Enfin, bref. Et elle a fait donc une heure et demie de cours. Et pendant une heure et demie de cours, elle m'a tellement agacée. Je suis ressortie. J'étais plus stressée quand je suis rentrée. Parce qu'en fait, elle m'a tellement. Je trouvais qu'elle était limite agressive dans sa façon de présenter les choses. Et puis elle mettait limite un peu cet esprit de compétition en place entre les gens et ça m'a vraiment agacée.
C'était complètement en dehors de la philosophie.
Et en fait, c'était le truc de réaliser. Voilà, elle n'était pas pour moi. Et donc je suis sortie, j'ai demandé quand est-ce c'est quoi son prochain cours. Parce
que je ne vienne pas.
Clairement, je ne serais pas allée. Bon, elle ne restait pas, donc c'était plus simple. Mais vraiment plus, ressortie plus stressée qu'en arrivant. Ouais. Donc il y a des bons et des mauvais.
Oui, bon, comme des bonnes et des mauvaises musiques, Stéphane.
Qu'est-ce que tu veux dire, hein?
Qu'est-ce que tu nous mets comme petite musique?
Je pensais mettre la grande découverte de ma fille en Belgique.
Allez, vas-y.
Qu'est-ce que c'est?
C'est Mon fils, ma bataille, de Daniel Balavoine. Ouais. Alors, je pense que pour elle, Daniel Balavoine se réduit à Mon fils, ma bataille. Elle était très surprise d'apprendre qu'il y avait d'autres chansons. Mais celle-là, elle la connaît par cœur.
Ah, c'est bien. Bien.
Toi aussi. Et on mettra sur le blog donc, toutes les informations sur...
Sans sa détente, que rien ne défend. on my love.
C'est intergénérationnel.
Je sais pas si c'est intergénérationnel. En tout cas, pour nous, ça ne se démode pas.
Ah oui, tu vois, déjà, les enfants de Steph, ils sont accros.
Oui, là, je suis assez étonnée. C'est la petite qui aime bien.
Ouais.
C'est bien, il faut continuer à lui faire écouter du Daniel Balavoine.
Nous en arrivons à notre deuxième invité, Sabine.
Bonsoir,
Sabine.
Il commence à noircir dehors.
Non. Donc, tu es professeur de français.
Oui.
Depuis un petit moment.
Depuis un petit moment, oui.
Une trentaine d'années à New Plymouth.
Non. Une très courte carrière. Là, je dois avoir peut-être 10-12 ans de prof de français. Pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné à la Polytech de New Plymouth. L'anglais, deuxième langue, pour donc les migrants, les étrangers qui avaient l'opportunité de payer les cours, qui étaient quand même assez chers. Et ça, je crois que c'était le boulot le plus satisfaisant que j'ai jamais fait.
Oui.
C'était vraiment passionnant. On rencontrait des gens intéressants et des expériences impressionnantes, parfois. Et mais maintenant, je suis de nouveau dans un lycée avec des adolescents.
Alors, ça m'intéresse, parce que mon mari souvent me dit « Oh, mais tu pourrais devenir professeur de français dans une école. » Et je me dis, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que de pire en pire, les élèves à l'école et les professeurs ont de moins en moins d'autorité. Et je me dis toujours, mais ça doit tellement être une option, ça doit être option 54 français, genre personne ne veut faire français. Alors, ça se passe comment quand on est prof de français? Ils sont intéressés?
C'est compliqué. Il y a des périodes dans l'histoire de l'éducation néo-zélandaise où les langues sont valorisées.
Mm-hmm.
Et il y a des périodes où elles ne le sont pas du tout. Là, les 9 dernières années, les langues, on voulait des maths, on voulait des sciences, on voulait des... Donc on a ça, on est toujours en concurrence avec d'autres matières. Et puis si on a des nombres faibles d'élèves dans nos options... On vous dit, écoutez, votre option, il n'y a pas grand monde qui la prend. Donc, voilà.
Donc, merci, au revoir.
Voilà.
Puis ici, on est quand même du côté de l'Asie. Donc, en général, ils aiment bien plus les langues comme...
Le japonais.
Oui, par exemple, mon mari, il a appris le japonais.
Oui.
Alors, il connaît 2-3 phrases en japonais, ce qui me fait beaucoup rire. Et donc, je me dis, y a toujours préférence chinois-japonais. C'est vrai que le chinois, ça devient une des langues qui est poussée par les écoles parce que ça devient une des langues les plus parlées dans le monde. Donc,
c'est vrai que contrairement au système français où nous, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on prenne une première langue et une deuxième langue et qu'on s'y tienne pendant plusieurs années. Ici, on peut lâcher la langue au bout de 1 ou 2 ans.
Les options, c'est les options.
C'est des options, c'est réduit aux options.
Mais il y a aussi une perception que c'est pas utile d'apprendre des langues. D'ailleurs, on peut voir avec le maori, la quasi-disparition du maori, qui va sans doute pas disparaître parce que les gens se battent. Mais les langues sont pas très valorisées parce qu'on voit que le côté « Ah, une langue étrangère, ça sert à quoi ?»
Oui, quand on parle anglais, voilà.
Moi, je dis ça, c'est le « curse of the English speaker ».
J'étais en Argentine et l'anglais, rien du tout, quoi.
Oui, mais ça me rassure.
Tu parles pas espagnol, tu parles pas,
ça,
quoi.
Ça me rassure. Et puis, pour moi, les langues, on parle d'un monde qui rapetisse, on peut aller n'importe où dans le monde. Même dans les provinces, tu parlais du chinois et du japonais. Le japonais, ça marche encore dans les provinces, mais le chinois, nous, il n'y a pas beaucoup de chinois à New Plymouth, par exemple. Je vois pas comment on va enseigner le chinois. Dans les villes comme Auckland, il y a des communautés chinoises énormes. Dans des grosses villes, peut-être, mais dans les provinces, je suis pas sûre.
Oui, puis
il faut adapter.
Puis il y a une différence de toute façon. Enfin, pour moi, j'ai toujours vu les langues vivantes, pas nécessairement, parce que je pense qu'à partir du moment où on quitte l'école, on peut pas parler couramment. Je pense que c'est plus un. Pour moi, c'est plus un développement intellectuel. C'est plus une connexion avec une culture différente et puis apprendre la structure grammaticale d'autres langues. Et là, en fait, par exemple, moi, je vois, en ayant appris l'anglais, le français et l'espagnol, je vois entre les trois, il y a des connexions. Ils ont l'espagnol et le français. L'espagnol et l'anglais ont le présent progressif, alors que le français ne l'a pas. Et donc il y a des structures grammaticales qui se retrouvent entre les langues, et je trouve ça assez intéressant. Après, si on pousse un peu, c'est comment comment les langues se développent. Et je pense intellectuellement, c'est assez intéressant.
Et puis, c'est de plus en plus facile à apprendre si on fait toutes les connexions, même avec le latin, pour ceux qui ont dû faire du latin. C'est pas si difficile que ça.
Absolument. Ouais. C'est un mécanisme, on apprend à accepter d'abord qu'on puisse dire les choses différemment, qu'on puisse. Mmh. Ça révèle aussi un mode de pensée différent. Mmh. Ouais. Et puis, il y a énormément de bienfaits quand on apprend une langue étrangère, parce qu'on apprend à constamment résoudre des problèmes, parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire pour dire ça, comment on va faire, on trouve un autre moyen. Mmh. Donc, ça donne beaucoup de flexibilité.
Je pense, oui, tout à fait.
Il y a de la recherche qui a démontré qu'on utilise beaucoup plus d'endroits différents dans son cerveau.
Et c'est ça, en fait. C'est ça que je trouve intéressant.
Et ce sont des qualités qu'on développe et qui sont utilisables dans n'importe quel métier. Domaine, ouais. Mais ça...
C'est plus du développement intellectuel.
Oui, absolument.
Et de pouvoir ouvrir des parties du cerveau plutôt que nécessairement se dire je vais apprendre une langue et je vais sortir de l'école, je vais parler couramment. À la limite, c'est un peu secondaire. C'est pas grave si tu arrives à parler couramment ou pas. L'essentiel, c'est que tu aies développé ton cerveau sur des fonctionnalités que tu n'aurais pas développées si tu n'en avais jamais fait.
Mais l'idée, c'est quand même de communiquer et de se rendre compte que le monde, ça n'est pas que de l'anglais. Et
que des gens...
Il y a d'autres civilisations.
Il y a d'autres langues.
Et on apprend à respecter plus les cultures des autres. On apprend qu'il y a des façons de penser différentes et puis que finalement, ce n'est pas un danger.
On exprime différemment certaines choses.
Il y a moyen de cohabiter sans problème. Ça enrichit. Ça enrichit énormément.
Stéphane, tu parles quelle langue, toi ?
Moi, belge.
Uniquement belge.
On te comprend bien, anglais, pourtant.
J'aime bien comment il dit. J'ai posé la question délibérément.
En sachant ce qu'il allait me répondre. Je parle belge. J'adore.
Effectivement, c'est pas du néerlandais. C'est autre chose.
Je parle français. Français de Belgique.
Oui. Oui, aux Pays-Bas, on en parle couramment 4, et c'est normal. Et c'est très simple, parce que c'est un petit pays. La télévision, c'est sous-titré, parce qu'on n'a pas les moyens pour...
Faire du voix-off,
et quand on est tout petit, on apprend à lire le hollandais, parce que si on ne comprend pas l'anglais, on commence par lire ce qu'on... Et le son est là, et on grandit avec la télé, et le hollandais est très proche de l'allemand, donc l'allemand on le prend rapidement, l'anglais donc c'est un must. Donc il y a le néerlandais, et puis après c'est tout à fait normal d'en parler 3 ou 4.
Mais je crois dans beaucoup de pays d'Europe, parce que ça fait partie du...
Plus un pays est petit, je trouve, plus ils sont ouverts vers l'extérieur.
Et puis il y a des frontières. Il y a plusieurs langues aussi.
Il y a des frontières, il y a des comment dire, ici pour aller parler une langue étrangère, tu vas loin, 3 heures jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Mais pour si tu veux parler une langue étrangère, enfin si tu ne connais pas de langue étrangère en Europe et que tu voyages à travers l'Europe, tu vas bien te confronter à un problème, et donc tu acceptes beaucoup plus facilement que tu dois en apprendre d'autres. Ouais.
C'est vrai, c'est ce côté insulaire qui les limite aussi, dans le sens où il n'y a pas de frontières, c'est une île, tout est loin, 3 heures.
C'est comme
heures
le Royaume-Uni en fait, ils sont aussi sur leur île.
Ouais, sauf que c'est plus. Ouais, mais c'est
même
plus
s'ils sont connectés.
Mais... D'ailleurs, ça a été un problème quand ils ont ouvert le tunnel sous la Manche. Ouais. Alors maintenant, ça a changé, parce que ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans maintenant, mais. Quand ils sont au tout début, ils ont ouvert le tunnel et ils arrivaient en France, ils parlaient directement en anglais. Et puis ça s'est pas passé comme ça. Il nous reste combien de minutes là ?
5 minutes.
Il nous reste 5 minutes. Ça passe tellement vite.
Ça passe beaucoup trop vite. Ouais. Et donc en revenant avec cet échange avec des écoliers, parce que Virginie s'interrogeait sur le rapport avec les enfants. Est-ce que c'est un rapport difficile, ou est-ce qu'ils sont réticents, ou est-ce qu'ils tu parce que les parents, je pense pas qu'ils parlent forcément le français. Quand tu leur enseignes...
Tu me demandes pour les écoliers.
Pour les écoliers, comment la communication que tu as avec les enfants, est-ce que c'est difficile de tenir une classe, ou est-ce que ça change tout le temps? C'est vraiment une question de...
Ça dépend vraiment de la nature de tes étudiants. Ça dépend d'énormément de choses. Si on s'attend dans leur famille et tout ça...
Excusez-moi, on a un appel pour une question. Oh. C'est tellement rare qu'on va le prendre. Je vous mets en ligne, je vous mets en air. Allô? Vous entendez?
Allô, bonjour. Je voudrais poser une question à cette dame qui a enseigné pendant assez longtemps le français. Je voudrais savoir si, à certains moments, elle a eu un certain tournant et s'est dit, non, je ne veux plus enseigner comme ça, je vais enseigner maintenant différemment. Enfin, l'évolution de l'enseignement, surtout concernant la langue parlée. Voilà.
Oui, tout à fait, tout à fait. On est... D'abord, aujourd'hui, on enseigne beaucoup plus la langue parlée pour que les enfants puissent communiquer tout de suite. Et puis, on essaie de rendre les situations d'apprentissage réelles. Donc, c'est plus...
Oui, mais je voudrais savoir votre expérience. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un petit peu contraire à ce que vous dites et à ce que la science linguistique voudrait. Je voudrais savoir votre expérience.
Mon expérience, moi, c'est d'être partie dans le temps, on enseignait avec des livres, on faisait répéter des trucs. Et maintenant, les élèves, on leur apprend des phrases, comment on appelle ça, des formules. Par exemple, quand ils se disent bonjour, il y a certaines choses qu'on dit, qui viennent naturellement. Par exemple, salut ou bonjour. Puis on continue, ça va, comment ça va. Et puis on développe des phrases qu'on peut utiliser tous les jours dans la vie de tous les jours. Et puis après, plus on apprend des sujets élaborés, plus on développe des formules qui peuvent être efficaces, donc ils peuvent communiquer très très vite. Et après, on essaye de développer l'écrit et la partie plutôt de réflexion et de transmettre des idées et du savoir. Ça vient plus tard, c'est une fois qu'ils sont à l'aise dans la communication superficielle de départ, on développe après de la profondeur.
C'est pas tout à fait ce que je voulais. Enfin, je vais poser une question qui peut-être répondra directement à ce que je veux savoir. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, je ne veux plus dire ouvrez votre livre à cette page, je vais leur dire fermez le livre ou ne l'amenez pas du tout. On va parler.
Oui, mais tout à fait, c'est ce qu'on fait.
Bon,
c'est ce qu'on
très
fait.
Bien.
C'est
très
ce qu'on
bien.
Fait.
J'ai besoin de cette réponse.
Merci. Ah, voilà. Au revoir.
Merci
au
bien.
Au revoir.
Bonne soirée. L'enseignement a changé effectivement avec le temps. Il nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, parce que ça aussi c'est une émission entière hein, finalement, ouais. Sabine. Est-ce que pour le mot de la fin, tu avais pensé à une autre musique ?
Mais oui, on a dimanche soir justement.
Dimanche soir, ça y est, c'est parti.
Grand corps malade.
Merci.